un événement difficile qui a touché notre pays il y a plus de 60 ans. Le 17 juin 1940, alors que notre pays était en guerre depuis plusieurs mois, le chef de notre armée a demandé que les Français cessent le combat face à l'ennemi et collaborent autant que c'était possible avec ceci. C'était le 17 juin 1940. Notre commandement suprême baissait les bras face à l'ennemi. Nous savons que le 18 juin 1940, un autre chef militaire, expatrié en Angleterre, lançait un appel à la résistance. Mais en fait, le 22 juin 1940, dans l'Oise, près de Compiègne, a été signé l'acte de rémission. Mais la résistance a duré, nous le savons, et le 8 mai 1945, l'ennemi a finalement abandonné le terrain. Pourquoi rappeler cet événement? Pourquoi se dire, mais ça, voir à quoi d'abord, on n'est même pas en juin, Jean-Claude. Parce que finalement, dans notre vie, c'est un peu la même histoire. L'ennemi vient toujours nous harceler. Il est toujours en combat. Parce que je vais vous donner une petite définition d'un armistice. Un armistice, c'est pas une cessation de combat, mais ça veut dire que quelque part, l'un baisse un peu les bras par rapport à l'autre, mais il y a continuellement la guerre. Et donc, j'ai trouvé intéressant de revenir sur cet événement historique. Et de dire dans notre vie, parfois nous signons un armistice. Parfois nous allons voir l'ennemi, on dit bon écoute, t'arrêtes un peu, tu baisses un peu l'intensité, d'accord. Mais il y a de l'autre côté l'oreille qui nous dit, tu vas te faire avoir. L'acte de reddition. Et j'ai trouvé dans l'écriture un passage, un texte, qui nous montre ces deux aspects, ces aspects où la guerre est là, la difficulté est là, et quelque part, d'un autre côté, la résistance qui peut avoir lieu et qu'est-ce qui se passe. Et j'aimerais vous inviter dans la première épître aux Thessaloniciens. Première épître aux Thessaloniciens, au chapitre 1, et nous lirons les 10 premiers versets, nous lirons le chapitre en fait, hein. Paul et Sylvain et Timothée à l'église des Thessaloniciens qui est en Dieu Père et en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ. Devant Dieu notre Père, nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, notre évangile vous ayant été, pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole du milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit. En sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Quand on raconte à notre sujet l'accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. L'épître aux Thessaloniciens, un modèle. Un modèle pourquoi? Parce que les Thessaloniciens sont des modèles. Non, tout simplement parce que dans le contexte, on va comprendre quelque chose. Paul est dans son deuxième voyage. Il a fondé l'église à Philippe. On voit au chapitre 16 du livre des Actes, hein, je vous donne les repères pour que vous alliez vérifier. Cette église de Philippe va rester dans son cœur. Ah non, Philippiens, il va dire « Je vous chéris dans mon cœur ». Mais c'est aussi dans cette ville qu'il se heurte pour la toute première fois aux magistrats, publiquement. Il découvre la qualité de citoyen romain. Et cela l'a sauvé. Mais là, il va laisser Luc à Philippe et il va se rendre à Thessalonique. Alors, moi j'aime bien parce que quand on lit les épîtres de Paul, on dit oui, bon, mais il a été à Thessalonique, puis il a été là. Mais là, il a fait 150 km. Pas avec German Wings, pas avec une voiture, mais avec ses pieds, avec ce qu'il pouvait, 150 km. Et là, il est avec Silas et Timothée. Il y a une brève relation avec cette église de Thessalonique, hein, c'est le chapitre 17 des Actes, de verset 1-9 qui le dit. Elle est complétée par des renseignements. Et là, il commence à donner des renseignements. Dans cette ville, là, Paul, il a touché beaucoup de Grecs, c'est-à-dire des non-juifs. Il s'adresse aux Juifs et c'est les non-juifs qui répondent. Et il a posé les soins, avec un grand soin, la base de son église. Il a donné l'exemple aussi dans cette église de Thessalonique du travail, de la frugalité. Il a renoncé à ses droits pour que l'église avance, faisant des tentes un moment pour n'être à charge de personne. Mais, il y a toujours un mais. Vous savez, quand une histoire commence bien, quand on commence par le bien, on se dit, mais il va dire quelque chose. Mais les Juifs de Thessalonique, les Juifs, ceux qui doivent savoir, déchaînent la persécution contre Paul. Les frères le firent alors partir avec Silas pour Bérée. Et là, il fait 90 km. Où la prédication suscite de nombreuses conversions, même chez les Juifs. Vous voyez ? Il est dans une ville où finalement il s'adresse à ceux qui savent et c'est ceux qui ne savent pas qui prennent. Et finalement, il va dans une ville où il y a plus de non-Juifs et là, il y a les deux qui se convertissent. Et puis, de Thessalonique, de Bérée, il va partir à Athènes. Et là, il va faire 250 km. Mes amis, il y a quelque chose d'intéressant à noter. Pourquoi j'ai noté les kilomètres d'Europe ? C'est pas très utile. Mais si vous commencez à additionner 150 km, 250 km, 90 km, ben ça commence à faire des kilomètres. Ça commence à en faire une certaine somme. Et beaucoup de cette partie de voyage a été fait dans la persécution, dans la difficulté, dans la fuite, mais avec l'annonce de l'Évangile. Il ne fuit pas pour cesser le combat, il fuit en continuant le combat. Il refuse que le diable gagne. Et là, il arrive à Athènes. Et là, dans Actes 17, versets 22 à 31, il va dire qu'il est déçu de cette ville. Il va faire un discours devant les philosophes sur la montagne de Mars, l'Aéropage, hein. Et là, il va exposer des vérités communes. Et il va dire, vous savez, restez stoïque, restez imperméable à l'Évangile. Ça va vous amener là où il ne faut pas. Et il va devant un auditoire très critique amener les gens à se tourner vers le vrai Dieu, se repentir et croire. Et là, finalement, il ne va pas encore rester à l'apôtre Paul. C'est un grand voyageur, il avait une carte de voyage certainement. Et donc, il va aller à Corinthe. Et là, il va faire encore 85 km. Et là, à Corinthe, c'est là qu'il va envoyer sa lettre à Thessalonique. Donc pourquoi je vous ai raconté toute cette petite histoire ? C'est pour vous situer le contexte. Cette église, elle est née dans la persécution, dans la difficulté. L'ennemi ne voulait pas que Paul implante des églises, ne voulait pas que les gens acceptent l'évangile. C'est intéressant parce que, voilà, on s'aventure cette semaine à annoncer l'évangile. Et je le sais, hein, le mardi soir, il faut prier. Parce que des persécutions, il y en aura. Des difficultés, il y en aura. Mais si on n'est pas prêt, si on pense que la semaine va bien se passer, alors on oublie que l'ennemi, lui, même s'il a signé quelque part, oui, d'accord, je baisse les bras. C'est pas vrai. Paul va fixer son objectif. On va chercher l'intention de l'auteur, c'est ce qu'on fait le vendredi. 1 Thessaloniciens chapitre 3 verset 2. Regardez bien ce qu'il dit. Nous envoyâmes Timothée, notre frère, ministre de Dieu dans l'évangile de Christ, pour vous affermir et pour vous exhorter au sujet de votre foi. Voilà le thème, voilà l'objectif, voilà le but, voilà son intention, affermir et exhorter. L'apôtre Paul, dans sa mission, il a trois axes. Trois grands axes. Fonder des églises, former les églises, affermir les églises. Fonder, former, affermir. FFA, hein, c'est facile à retenir. Fonder, former, affermir. Pour cela, il enseigne. Pour cela, il visite. Pour cela, il envoie. Il enseigne, il visite, et quand il ne peut pas visiter, il envoie des hommes. Paul, lorsqu'il veut affermir, on va dire, il prend des gants. Mais vous savez, on a l'habitude de lire ses épîtres maintenant, et on sait que de temps en temps, il y a souvent une main d'acier dans un gant velours. C'est-à-dire qu'il sait dire aussi les choses. Et là, j'ai noté ce matin, parce que je pense que c'est important pour nous, l'Église de Vigneux, de nous rappeler que toute Église est fragile, que toute Église, ou toute Église est attaquée, que chaque pierre vivante qui en fait partie va être attaquée, que les intempéries seront là, mais que si nous ne tenons pas ensemble, alors on va s'écrouler. Et voilà la première chose que Paul dit aux Thessaloniciens au chapitre 1. Il leur dit qu'il apprécie les œuvres produites par leur foi. Nous rendons continuellement grâce, dit-il au verset 2, pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse. Paul, je crois que c'est un des seuls ou un de ceux qui utilisent le plus le mot sans cesse. C'est lui qui va dire dans 1 Thessaloniciens 5, 18, quoi ? Priez sans cesse ! Priez, c'est court, hein ? Priez sans cesse, c'est un verset. Priez sans cesse. Et là, il dit, je n'ai de cesse de me souvenir de vous, je fais mention de vous dans mes prières, et la première chose, je me rappelle sans cesse l'œuvre de votre foi. La foi produit des œuvres. Ce n'est pas nous qui produisons des œuvres pour la foi, mais la foi produit des œuvres. Elle communique quelque chose, elle nous rend actifs. Nous étions morts. Vous avez déjà vu un mort bouger ? Il n'y en a qu'un qui a réussi à faire bouger les morts, c'est Jésus. Il les a fait relever. Lazare, sors ! Mais il est mort, sors ! Nous notons ici que nous ne pouvons pas œuvrer efficacement sans la foi. Ou nous allons par culpabilité, par contrainte, par orgueil, par ambition, parce que personne d'autre le fait. Non, les œuvres que Paul met en avant, c'est l'œuvre de la foi. Les œuvres qui nous permettent de faire des choses insoupçonnées, des choses... On nous les aurait dit avant, on aurait dit, mais ça, jamais. Ça, moi, jamais. Il apprécie les œuvres de la foi, mais non, pas simplement il dit c'est bien. Mais il dit dans le texte, je fais mention de vous dans mes prières et je fais sans cesse une reconnaissance. Est-ce que nous pourrions envisager quand nous prions pour les frères et sœurs qui sont autour de nous, nous rappeler sans cesse l'œuvre de leur foi. Sans cesse. Pas quand tout va bien, mais sans cesse. La deuxième chose, verset 3, il dit, au verset 3, je vais le lire tout entier, l'œuvre de votre foi, le travail de votre charité. Le travail de votre charité. Là, on passe des œuvres au travail. Les œuvres, c'est un produit. Le travail, c'est quelque chose qui nous fait plus transpirer. Le travail, c'est quelque chose où finalement l'amour me presse, me pousse, m'amène à faire quelque chose pour l'autre. Vous savez que la plus grande des choses que nous mettons notre vie entière à réaliser, je le découvre, c'est quoi, à votre avis? Que nous sommes sauvés, pourquoi? Pour servir, oui, mais encore. Pour servir qui? Son prochain. Notre vie est venue, nous sommes sur terre pour les autres. Nous ne sommes pas sur, ou les autres ne sont pas sur terre pour nous. Nous sommes sur terre pour les autres. Dieu nous a mis sur cette terre pour servir les autres. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit à Pierre quand il voulait lui laver les pieds? Il a dit, je ne suis pas venu pour que tu me serves, je suis venu pour te servir. Et finalement, c'est notre exemple. C'est notre exemple. On est là pour servir les autres. C'est pas et moi, et moi, et moi, et 500 millions de petits Chinois. Le travail de notre amour, on peut traduire la fatigue, l'effort, le produit qui entraîne une fatigue. Ce n'est pas un peu coûteux le travail, mais c'est un travail poussé par, vous avez vu, par l'amour. Par l'amour. Dieu, par amour, alors que nous étions ennemis, s'est donné pour nous. Et finalement, nous chrétiens, on ne sert et on aime que ceux qui nous aiment. Ceux qui peuvent nous rendre l'appareil. Je l'aide parce qu'il peut me rendre service. C'est pas comme ça que Dieu prévoit les choses. Il dit au contraire de faire des choses à des gens qui ne peuvent pas nous les rendre. Et là, l'œuvre de l'amour, il y a un coût. Et le coût initial, c'est l'amour de Christ. Le coût initial, Jésus, on a vu Jésus aller à la croix, il a débattu avec. Il a dit quoi? Courtement, il a dit à son père, « Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, et non pas ma volonté, mais la tienne. » Plier, se soumettre, obéir, mes amis, c'est pas être inférieur. C'est au contraire obéir à une motivation que seul Dieu peut nous donner. Quelle est notre motivation? L'œuvre de notre foi? Est-ce que nous sommes connus pour le travail de notre amour? Ou au contraire, connus comme étant que des réceptacles, des boîtes, ceux à qui on donne tellement, mais qui ont tellement peu de choses à offrir? Toujours dans ce verse 3, regardez bien la troisième chose qui remarque, la fermeté de votre espérance. La fermeté de votre espérance. Troisième chose, il apprécie leur endurance, inspirée par l'amour. L'endurance, c'est pas la patience, mais c'est bien plus. C'est rester vivant, tenir ferme, endurer, souffrir, exprimer la peine de ceux qui sont blessés. C'est ça l'endurance. C'est pas juste être là en disant « ça va passer ». Ce n'est qu'un moment difficile à passer. Serrez les dents, monsieur. Hein, vous savez, quand vous êtes chez le médecin, chez le dentiste, c'est juste un moment. Vous allez voir, ça va passer très vite. Et quand vous êtes sur le siège, là, la seconde, la minute, elle vous représente une éternité. Hein.
Ah, il dirait encore longtemps, là.
Non? Ouais, les dames qui accouchent, hein. On se souvient du bébé, mais avant, hein, c'est compliqué. Dans 1 Thessaloniciens 2,14, il dit « Car vous, frères, vous êtes devenus des imitateurs des églises de Dieu qui sont en Jésus-Christ dans la Judée, parce que vous aussi, vous avez souffert de vos propres compatriotes les mêmes maux qu'elles ont souffert de la part des Juifs. » L'endurance, c'est aussi affronter l'ennemi. Et c'est pour ça que j'ai utilisé cette illustration, au début, une illustration véridique. Notre ennemi, il vient pour nous décourager, pour nous dire « laisse tomber ». Laisse tomber. À quoi ça sert?
T'es chrétien, regarde ce qui t'arrive.
Vous vous rappelez les potes à Job?
T'as vraiment un Dieu? Ben dis donc, t'as vu la façon dont il t'aime? Eh ben mon vieux, laisse tomber. Hein. Même sa femme qui l'aime d'un amour.
Le meilleur et le pire, mais dans le pire, elle lui dit, écoute, renie Dieu et meurs. Hein. Ça, c'est le pire.
L'endurance. Est-ce que nous sommes connus pour notre endurance?
Au contraire, connus comme...
Et ça peut se comprendre, frères et sœurs. Quand on lit les reportages des gens qui souffrent, des gens qui, jour après jour, instant après instant, 24 heures sur 24, sont harcelés, sont mutilés, à qui on retire tout un tas de choses, on peut se dire, mais comment ils tiennent? Et de temps en temps, on voit qu'ils baissent les bras, et là, on ne peut pas les blâmer, mes amis. Mais on peut prier pour eux. Prier qu'ils tiennent. Mes amis, c'est difficile. Le diable, il ne nous laisse pas. Même quand vous allez vous coucher, hein, quand vous dites, allez, je vais dormir, comme ça, je vais oublier. Et là, le diable, il utilise aussi nos rêves, hein, nos pensées, pour dire, allez, laisse tomber. Je t'encourage, ne fais plus rien. C'est le message qu'on a passé des années 68 jusqu'aux années 90. Dans notre société, au travers des chants, au travers de la littérature, au travers de la presse, hein, si vous aimez regarder un petit peu tout ça, c'est « laisse tomber, tout va bien aller ». Et il y a un imitateur, enfin quelqu'un qui raconte des blagues, qui dit « de toute façon, on nous passe le message en permanence, c'est « je m'occupe de tout ». Tout va bien aller. Et c'est ce que le diable, il vient nous dire tous les jours. « Je m'occupe de tout ». Vous avez vu ce qu'il est venu dire à Jésus? Je peux te donner les richesses, je peux te donner toutes les choses. Laisse tomber. L'espérance, c'est avoir confiance, c'est chercher refuge, c'est attendre quelque chose espéré, mais d'une manière positive, d'une manière active. C'est une nécessité. Quelqu'un a dit, si vous voulez tuer un pays, enlevez-leur l'espérance. Il n'y a aucune... Vous savez, la phrase qu'on nous... que ça soit sur un aspect médical, que ça soit sur un aspect du travail, que ça soit sur beaucoup, beaucoup d'aspects, la phrase fatale, c'est « il n'y a plus aucun espoir ». Quand on dit ça à une personne, en principe, n'espérez plus rien. Il n'y a aucune solution. Alors que Dieu, il lui dit quoi? Soyez ferme dans l'espérance. Soyez ferme. Dans l'Ancien Testament, le fondement de l'espérance du peuple de Dieu était l'alliance, les promesses. Dans le Nouveau Testament, Christ, qui est venu et qui va revenir. Il est venu, nous avons la preuve. L'espérance du croyant ne se fonde pas sur ma propre justice, sur leur propre justice, mais sur la fidélité de Dieu. Est-ce que Dieu est fidèle? Est-ce que nous sommes découragés? Oui. Pas toujours, pas toujours. Ou presque pas toujours. La fidélité de Dieu, le croyant de la nouvelle alliance trouve un gage de la réalisation des espérances dans la résurrection de Jésus-Christ. D'entre les morts, le don de l'Esprit, nous sommes scellés, il a fait son habitation, il s'est invité chez nous. Vous savez, quand on reçoit quelqu'un qui veut venir chez nous, est-ce qu'on dit oui, j'aimerais venir chez toi? Bah, ça dépend. Écoute, j'ai pas fait le ménage, non pas aujourd'hui. Non, prends dessous, c'est un prétexte, hein, pour dire j'ai pas envie. Quand nous venons à Jésus-Christ, quelque chose d'extraordinaire, c'est que le Saint-Esprit s'invite à la maison. Et il en fait son temple, son habitation, pas secondaire. Il vient pas visiter de temps en temps le week-end, hein? Dimanche matin, 10h30, midi, tiens, je vais faire un séjour. Mais dans Jean 14, ou Jean 16, Jean 14, je crois, voilà, il a dit qu'il allait faire son habitation éternelle. Fermeté de l'espérance. Quatrième chose, Paul reconnaît leur application à reproduire la foi. 1 Thessaloniciens 1:6, vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur. savez, frères, frères et sœurs, ce qui est intéressant, c'est que on n'aime pas se mettre en avant, que personne ne prenne gloire. Alors, surtout quand on dit à des gens de suivre Christ, on dit, mais surtout, tu ne me regardes pas moi. Hein. Tu ne m'imites pas. Et alors, les gens, ils disent, mais si toi, je ne t'imite pas, toi, tu es disciple de Jésus-Christ, mais je ne dois pas faire comme toi. Là, il y a un truc, je ne comprends pas bien. Alors, oui, mais moi, tu sais, moi, c'est moi. C'est Christ qu'il faut imiter. Ben là, ce n'est pas ce que dit le texte. Il dit, vous êtes devenus nos imitateurs. Si nous ne sommes pas des modèles, mes amis, pour la société, alors à quoi est-ce qu'on sert? S'il n'y a pas la lumière chez nous, alors si on est éteint, est-ce que Dieu a allumé une lumière pour la mettre sous le boisseau? Est-ce que le sel sert à quelque chose lorsqu'il a perdu sa saveur? Qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Elle dit qu'il est bon à être jeté au feu. Ah, ça fait réfléchir, non, cette phrase? Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, ayant reçu la parole accompagnée de grandes tribulations dans la joie de l'Esprit Saint. Ah ça, pourquoi c'est là, vous avez reçu la parole accompagnée de grandes tribulations. Alors j'ai marqué là, il ne faut pas confondre imitateur et charlatan. Imitateur, quand on dit imiter en France, c'est en principe très négatif, hein, c'est grossier. Oh, tu m'imites, tu te moques. Hein, on peut moquer par la voix, on peut moquer par les gestes, on peut moquer... Mais là, c'est imiter dans le bon sens. Si on veut être des modèles, mes amis, et Dieu a fait de nous des modèles. Alors, notre qualité de vie doit changer. Alors, ce que je montre aux autres, ils doivent être capables de le reproduire. Et quand bien même je pêche, parce que ça m'arrive, alors de reconnaître à ceux qui nous regardent, ça, je te conseille, ne le fais pas. Ça, ne le fais pas, parce que c'est pas bien. Tu vois, ça fait mal à Dieu. Ça attriste le Saint-Esprit qui est en moi. Et ça peut te faire tomber. Application à reproduire. Si nous étions tellement conscients que ceux qui nous regardent sont capables de nous dupliquer, je pense qu'on ferait plus attention à notre qualité de vie, non? Et nous sommes là pour ça, mes amis. Cette semaine, on va nous regarder. Parce que cette semaine, on ouvre grand la porte. On ne se cache plus. On va au grand buisson là-haut. Et on veut montrer que des gens imparfaits se sont approchés d'un Dieu parfait. Et que ce Dieu parfait, il veut aussi ouvrir la porte. Le mur de séparation a été aboli. Cinquième chose, verset 9. Paul apprécie l'évidence de leur conversion. L'évidence de leur conversion. Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes converti en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. L'évidence, tu m'aimes, ben c'est évident. Si je suis encore là, bon, j'irai nulle part aller ailleurs. Quelle est l'évidence que nous aimons Dieu? Le fruit de notre travail? Les œuvres produites par la foi? Le travail par amour? Notre persévérance? Quelles sont les évidences? Que nous sommes là tous les dimanches matin? C'est pas une évidence. Se détourner du péché, abandonner, fuir, rejeter. Se tourner du péché vers Christ, des ténèbres vers la lumière, du faux vers le vrai. Les idoles sont mortes. Dieu est vivant. Les idoles sont fausses. Dieu est vrai. Les idoles sont nombreuses. Dieu est unique. Trois vérités, hein? Les idoles sont mortes. Dieu est vivant. Les idoles sont fausses. Dieu est vrai. Les idoles sont nombreuses. Dieu. Voilà. Les idoles faisaient partie de la vie des Thessaloniciens. Le mont Olympe se trouvait à 90 km au sud. était l'endroit où tous les dieux grecs étaient superposés, étaient là. Les idoles étaient en grande quantité et étaient rentrées dans la culture du pays. Peut-être on vient de pays comme ça, hein, à Dassa, au Bénin. La petite église évangélique est logée juste à côté d'une grande montagne. Et il y a une grande église catholique juste à côté, une grande cathédrale. Et la montagne, c'est la montagne où on offre les sacrifices, là où est né le vaudou. Et on offre encore des sacrifices vivants, aujourd'hui. Ça fait partie de la culture du pays. Et dans notre pays de France et dans vos pays, combien de choses négatives sont ancrées dans notre vie, dans notre culture, dans notre... Mais là, Paul, il dit, il faut s'en détourner. Face à l'Écriture, il faut s'en détourner. Le prophète Ésaïe, je fais une petite digression, au chapitre 2, verset 17, dit « L'homme orgueilleux sera humilié, le hautain sera abaissé, l'Éternel seul sera élevé. » Y a-t-il des preuves de notre conversion ? Qu'avons-nous laissé de notre culture, de nos habitudes ? Des choses que nous avons pratiquées peut-être pendant très longtemps. La sixième chose, Paul apprécie leur service. Vous avez abandonné les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Servir, c'est se mettre sous l'autorité de « oui, chef ». Ça, on n'aime pas. Hein. La soumission, on en a encore discuté cette semaine. Hein. On est en deuxième zone quand on est soumis. Hein. Ça paraît pas bien quand même. L'homme soumis à Christ, la femme soumise à l'homme. On est tous des deuxièmes classes, en fait. Non, on est des premières classes, mes amis. Parce qu'obéir à Christ, c'est être assuré de quoi ? De vivre. Suivre les principes célestes, c'est être sûr que nous avons la bonne direction. Si on suit le mauvais GPS, on va se perdre. Le GPS avec Christ, hein, il nous rappelle sans arrêt, hein, faites demi-tour. Servir, c'est se mettre sous l'autorité. Matthieu 20, 26, il en sera ainsi parmi vous. Mais quiconque voudra devenir grand sera votre serviteur. Quiconque voudra être le premier parmi vous, il soit votre esclave. De même que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. À nouveau, servir les autres. Un général américain, pendant la guerre de sécession, était en train de traverser le champ de guerre et voyait ses soldats en train de faire des choses. Et à un moment, lui, il est habillé en civil. Et à un moment, un jeune gradé, l'appelle, l'interpelle et lui dit « Toi là, j'ai besoin de ça !» Alors le général, il vient et il dit « Mais qui êtes-vous ?» Il dit « Je suis caporal !» Donc devant le caporal, on se reprend. Alors le général, il s'incline, il dit « Ben, mon caporal, oui. » Et puis il lui demande de faire des choses et il lui dit « Mais vous savez, à la fin, quand il a accompli sa mission, le général Washington, il le regarde et il lui dit « Vous savez, si vous avez des pointes, des choses qui ne vont pas, ça serait bien d'en informer votre grand commandeur. » Et il dit « Ça changerait quoi ?» Il dit « Ben, je reviendrai dans ce cas-là. » Notre maître, il est venu sur terre à notre place. Il est venu mourir à notre place. Il nous accompagne chaque jour. Il a dit, je ne vous abandonnerai pas. Je vous donne le consolateur. Et en plus, il nous promet, je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Dernière chose, septième, j'aime le 7. 1 Thessaloniciens 10, il apprécie leur attente. Et pour attendre des cieux, son Fils, qu'il ressuscite des morts, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Il apprécie leurs œuvres, il apprécie leur travail, il apprécie leur amour, il apprécie leur persévérance. Mais ce qu'il apprécie en finale, c'est leur attente. Comme nous avons pris la scène tout à l'heure. La scène nous rappelle que Jésus va revenir. À chaque fois que vous prenez ce vin, que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et là, ce qu'il apprécie chez les Thessaloniciens, c'est qu'ils ne se sont pas établis sur terre. Ils n'ont pas décidé de faire leur résidence permanente, de rester là, de dire qu'est-ce qu'on va être bien, mais de dire nous attendons une chose, c'est que Jésus revienne.
Servir, attendre, vont de pair pour le chrétien, même si attendre semble passif. Et servir, actif. En fait, attendre, c'est aller vers assurance. Servir dépend de la place que nous laissons à Dieu pour faire, pour nous convaincre d'attendre. Sommes-nous confiants dans les choses que Dieu nous demande de faire? Cette semaine, Dieu nous confie une grande mission, un grand commandement, d'aller dans la ville, de servir, de le présenter. Nous sortons le drapeau cette semaine, à l'extérieur. Ambassadeur pour Christ, ambassadeur, agent de réconciliation. Est-ce que nous allons être connus et reconnus comme des hommes et des femmes qui pratiquent des œuvres parce que leur foi les amène à pratiquer ces œuvres, non pas pour eux-mêmes, mais pour les autres? Est-ce que nous allons être reconnus à la fin de semaine comme des gens qui travaillent par amour, pas par obligation, pas par intérêt? Serons-nous connus en nous mettant comme des hommes et des femmes qui se mettent au service des autres? Et finalement, est-ce que nous serons connus comme des hommes et des femmes qui attendent quelque chose avec impatience? C'est que Jésus revienne pour partir avec lui. En conclusion, au verset 7, voilà ce qu'il dit. Chapitre 1, verset 7. En sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Est-ce que notre vie parle plus fort que nos lèvres? Est-ce que notre vie parle plus fort que nos lèvres? Moi, j'aimerais faire cette prière. Ceux qui sont amis avec moi sur Facebook, ils l'ont trouvé cette semaine. Que notre vie parle plus fort que nos lèvres. Mais qu'elle ne soit pas en opposition à nos lèvres. Qu'elle ne soit pas en opposition à tout ce que nous sommes en train de clamer. Mais que l'obéissance, l'amour, l'espérance, la patience, la paix, le fruit de l'esprit soient en chacun de nous. Pour qu'il n'y ait pas de dichotomie entre ce que nous allons prononcer cette semaine et la réalité. Pour que quand les gens nous regardent, ils ne nous regardent pas comme des hypocrites, comme des faux témoins, mais bien au contraire, comme des disciples de Jésus-Christ soumis à lui, mais dont l'amour les pousse à se tourner vers les autres. Je prie que Vigneux, cette église, les habitants de Vigneux, mais les habitants aussi d'ailleurs, parce que vous n'êtes pas tous de Vigneux, et nous ne sommes pas tous de Vigneux, nous devenions des modèles. Mais vous avez vu, pour être un modèle, ça commence par quoi? Ça commence par les œuvres de notre foi, le travail de notre amour, la patience, l'espérance. Parce qu'alors, c'est le fruit de Dieu dans notre vie. Ce n'est pas le fruit de nos œuvres, ce n'est pas le fruit de nos intentions. Je vous invite à prier. Père Céleste, merci encore pour cette épître aux Thessaloniciens, cette église de Thessalonique, née dans la difficulté, née dans la souffrance, mais dont l'écho s'est fait à résonner dans bien plus de régions. Merci Seigneur, parce que tu nous connais, nous. Tu sais exactement quelles sont nos craintes, nos appréhensions, nos difficultés, nos forces. Seigneur, je voudrais juste une nouvelle fois, prier pour notre Église, Seigneur. Tu en es le chef, tu en es l'architecte, c'est toi qui amènes chaque pierre, et chaque pierre est utile. Chaque pierre vivante. Je te prie pour les défis qui sont mis devant nous. Pour cette semaine, pour l'opération Bulle de Vie, merci pour la participation, l'aide, l'assistance de l'AE avec nous. Mais Seigneur, que ça ne soit pas une bulle de vie, un petit moment, mais que ça puisse être notre vie. Que à partir de lundi prochain, Seigneur, alors que cette opération sera terminée, nous puissions encore respirer ces choses, Seigneur, que nous puissions les pratiquer,
qu'elle puisse être la manifestation de ta vie dans la nôtre, qu'elle puisse être l'expression de l'amour que tu auras déversé, et que ceux qui ont peut-être des appréhensions, ceux qui peut-être aujourd'hui se disent « je ne me sens pas concerné », puissent être touchés par ton esprit. Que nous n'ayons pas honte de l'évangile de Christ. C'est une puissance. Seigneur, je te prie de nous encourager cette semaine, de permettre peut-être aux uns et aux autres de découvrir les dons que tu auras mis en eux, en s'exprimant, en invitant, en partageant, en accompagnant. Parce que toi, tu nous as déjà devancés dans cette œuvre et nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen.